Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas, ou même très, très loin. Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Parce qu'en immobilier, pour être à son affaire, suivez les conseils de nos experts. Via Capital, les courtiers immobiliers qu'on aime référer. Bonne écoute.
L'économie, les affaires, les finances. Pour bien gérer votre portefeuille, mêlez-vous vos affaires. Cube Radio.
Le sujet revient périodiquement au moment des budgets des États. Les riches payent-ils leur juste part d'impôts? Et sinon, combien doit-on aller leur chercher davantage dans leur poche? On parle de plus en plus d'impôts minimum mondial pour financer la reprise à la sortie de la pandémie. Déjà, Biden veut imposer un impôt mondial minimum sur les profits de 21 % multinationales. Même le fondateur multimilliardaire d'Amazon, Jeff Bezos, trouve que c'est une bonne idée. Ici, au Québec, l'Institut IRIS qui veut hausser le taux d'imposition sur les salaires de 250 000. Un bon sujet pour notre chroniqueur préféré, Michel Girard, chroniqueur économique au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Michel.
Bonjour Yves.
D'abord, réglons le cas des faits, parce qu'évidemment, il y a beaucoup de choses qui s'écrivent sur ce sujet. Est-ce que les riches paient suffisamment d'impôts et réussissent-ils vraiment à le payer ou à éviter d'en payer?
Bon, évidemment, la question n'est pas simple à répondre. C'est sûr que les riches payent énormément d'impôts et c'est totalement normal. Et d'ailleurs, la grande majorité des riches, je pense, que ne s'y opposent pas, là. Mm-hmm. Mais cela étant dit, évidemment, j'ai fait une vérification là, justement là, de combien d'impôts que l'on payait. Et puis les dernières données fiscales qui viennent de sortir là, portent sur l'année d'imposition 2017. Or, mais tu sais, on peut par extension dire que ça va être la même chose en 2018-19, puis 2020. Mais en tout cas, bref. Par contre, ce que je ne comprends pas, c'est comment se fait-il que dans la tranche de revenus de 100 000 $ et plus, c'est quand même pas des pinottes, là. Mm-hmm. Alors, on retrouve au Québec, là, 3 681 contribuables qui n'ont pas payé une cent d'impôt provincial. Pas une cent d'impôt provincial. Alors, et puis, pire que ça, là, chez ceux qui ont déclaré 250 000 et plus de revenus, tu retrouves 498 contribuables qui n'ont pas payé de l'impôt. Alors, évidemment, c'est là où je dis, on a un sérieux problème. Or, et puis, c'est la même chose au niveau fédéral, là, soit dit en passant, là. Bon, alors même si évidemment quand tu remplis ta déclaration, il y a des différences, mais on peut retrouver, tu sais, dans des proportions semblables le même nombre de personnes qui ne payent pas d'impôts. D'ailleurs, au fédéral, chez les 100 000 et plus, là, à l'ensemble du pays, tu en as 7580 qui n'ont pas payé une cent d'impôts. Alors moi, c'est là-dessus que je me dis on a un problème. Faudrait, je pense, que les gouvernements imposent à un moment donné un impôt minimum sur les revenus. Moi, je crois qu'à partir de 60 000 d'un seuil de revenus de 60 000 $ par individu, on s'entend, là, je crois qu'il faudrait là, qu'il y ait quand même un impôt minimum à payer. Et puis ce serait, je pense, la normale des choses, parce que ça n'a pas de bon sens que des gens évitent complètement.
Quand on parle d'un impôt minimum, on veut dire tout simplement qu'ils ne pourraient pas éviter de payer de l'impôt en ayant toutes sortes de déductions qui amènent à faire en sorte qu'il y ait zéro impôt de payer. Donc, il faut, autrement dit, clair, précis, peu importe les déductions, les crédits d'impôt possibles, ils vont payer un montant fixe d'impôt sur la base de...
Un minimum.
En fait, c'est un peu l'idée de Biden. Biden veut un impôt minimum mondial, donc qui toucherait toutes les multinationales, entre 21 et 28 %.
Oui, ça, évidemment, c'est un pourcentage assez costaud, là,
oui,
quand même pour les sociétés. Et mais comme tu vois, hein, tu vois les grands de ce monde comme Bezos, là, propriétaire quand même d'Amazon, tu vois, il ne s'y oppose pas. T'as un Warren Buffett qui s'y oppose pas. Alors, donc, ultra riches, mais vraiment ultra riches, là, ne s'y opposent pas. Mais ça, évidemment, c'est pour les sociétés. Alors, et on pourrait faire la même chose au niveau des particuliers. Il y a quand même un minimum, parce que, tu sais, quand les gens ne payent pas une cent d'impôt, là, parmi les gens, tu sais, que je regarde mes 498 qui ont gagné, qui ont rapporté un revenu de 250 000 et plus, puis qui ne payent pas une cent d'impôt, écoute bien, là.
On s'entend pas. On s'entend que si eux autres ne payent pas d'impôt, il y en a une méchante gang qui, eux autres, la payent leur impôt. Je vais te revenir sur l'Institut Liris, là, qui est un institut de gauche au Québec, qui est très proche de Québec solidaire et qui, eux autres, proposent d'augmenter de 10 points de pourcentage le taux marginal d'imposition sur les revenus annuels supérieurs de 250 000. Est-ce que ça fait du sens, à ton ami?
Ben, ça fait du sens dans le sens suivant. Bon, évidemment, tu vois, il faut savoir que on parle évidemment d'une hausse d'impôt sur ce qui dépasse le revenu de 250 000. Là. Mm-hmm. Or, bon, ce qui veut dire que le taux marginal passerait à près de 36 %. Il est actuellement de 25,75. Ça passerait à 36 %. Bon, on s'entend que c'est une méchante hausse. Puis en plus, si le fédéral emboîtait le pas, ce qui veut dire qu'on arriverait au total à un taux d'impôt de 75 % sur tout revenu dépassant les 250 000.
Mettons bon. Que ça
bon, c'est... On peut bien trouver ça extraordinaire, mais entre nous, c'est complètement illusoire. Jamais les gouvernements, ni de Québec, ni d'Ottawa, ni d'aucune province, emboîteraient ce pas-là. C'est sûr qu'on pourrait aller chercher, en haussant de 10 points de pourcentage, là, le taux marginal sur le montant, sur l'excédent des 250 000 de revenus par année. L'IRIS a calculé que c'était pour apporter à peu près, bon, autour d'un milliard de plus par année de revenus. Alors, mais si tu étends ça, évidemment, au fédéral, oui, il ferait la même chose. On parle de 2 milliards de plus qu'on irait tirer des poches des ultra-riches, des gens qui gagnent en tout cas des revenus dépassant les 250 000. Je trouve ça quand même illusoire, je ne crois pas. Je pense qu'il faut trouver d'autres solutions. Là.
Nous sommes avec Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Michel, je veux te revenir sur un sujet qui te préoccupe depuis plusieurs années, qui est ce qu'on appelle les gains en capital qui sont faits par des gens qui réussissent à faire de l'argent. Explique-nous comment ça fonctionne actuellement, les gains en capital, puis c'est quoi la solution que tu suggères, toi, pour faire en sorte que, justement, on puisse aller en chercher encore davantage chez les gens qui font quand même un bon coup d'argent?
Ben, les gains en capital, c'est, mettons, tu investis en bourse, tu investis en bourse et puis quand tu revends, tu réalises ce qu'on appelle un gain en capital. C'est considéré comme étant un gain en capital. Alors, la question n'est pas sur la définition du gain en capital, mais ce qu'il faut savoir, c'est que fiscalement parlant, tu n'es imposé que sur la moitié du gain de capital que tu réalises. Tu as fait, mettons, 1000 piastres de gain en capital, mais tu vas payer de l'impôt sur 500 piastres. Or, autant au fédéral qu'au provincial, là, c'est seulement la moitié des gains en capital qui est imposable. Alors, là-dessus, bon, je ne m'oppose pas à ça, mais le problème, c'est qu'encore là, il faudrait à un moment donné peut-être mettre des limites. Parce que ce qu'il faut savoir, ce que nous révèlent les statistiques de l'année d'imposition, évidemment, 2017, puis ça va être la même chose pendant les autres années, je le répète. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chez les gens qui gagnent qui rapportent des revenus de 250 000 et plus, ben imagine-toi que 56 % de tous les gains en capital réalisés en 2017 vont dans les poches des gens qui gagnent 250 000 et plus. Donc, il y a ces 29 156 contribuables au Québec là, qui se sont partagés des gains en capital de 7,4 milliards de dollars. Je répète, 7,4 milliards de dollars. Et ces 29 156 contribuables, évidemment, ont bénéficié parce qu'ils ne payent de l'impôt que sur la moitié de ces gains-là. Donc, il y avait un revenu de 3,7 milliards de dollars sans impôt. Mettons que ça, je trouve ça pas mal exagéré, puis c'est la même chose quand tu regardes du côté canadien, quand on regarde, tu vois, dans l'ensemble, il y a eu pour 74 milliards là, de gains en capital réalisés, et puis les gens gagnant 250 000 et plus, ils en ont reçu eux-mêmes pour 52 % de la facture totale. Fait que là, moi, je me dis des gains totaux. Alors, moi, je me dis, tu vois, là, tu vois, tu sais, au Québec, là, quand tu fais des proportions, là, c'est que c'est 7 dixièmes de 1% des contribuables qui ont empoché 56% de tous les gains en capital. Mettons, Yves.
Mettons que si j'ai hâte de voir le ministre des Finances quand il va lire ta chronique, peut-être qu'il il savait même pas ce chiffre-là.
Non, c'est ça, parce qu'évidemment, on passe pas le temps à fouiller ce genre de chiffres-là, mais c'est très révélateur. Fait que là, on s'entend qu'il y a quand même des bonbons fiscaux, il y a une limite. Moi, je pense qu'on pourrait imposer une limite annuelle là, aux gains en capital qui bénéficie des avantages fiscaux, puis le reste, ben écoute, tu payes plein d'impôts sur les gains en capital.
En concluant, Michel, c'est sûr qu'on s'attend à ce que, évidemment, l'État va avoir besoin beaucoup plus de rentrées d'argent pour financer autant les conséquences de la pandémie, la reprise économique. Il va y avoir des investissements à faire en santé, évidemment, dans l'éducation et dans les infrastructures, puis il y a quelqu'un qui va devoir payer, puis ça, il faudra s'assurer que tout le monde paye sa juste part du gâteau. C'était Michel Girard, chroniqueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. On continue à te lire continuellement dans le journal. Salut Michel.